C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 5 octobre, bonne journée, bienvenue au 98.5, deux autres belles journées en vue. Ça commence par du temps ensoleillé aujourd'hui, maximum 20 degrés. J'ajoute l'indice UV comme une confirmation à 5. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, minimum de 11 degrés. Jeudi, ça demeure généralement ensoleillé, c'est même un peu plus chaud, maximum 23. Puis tenez-vous bien, demain on a ressorti l'humidex qui sera autour de 25 degrés. Durant la soirée, ça se couvre. On prévoit du temps donc nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, minimum de 14. Vendredi, couvert, un petit peu de pluie. C'est vrai le jour, c'est vrai durant la soirée. Et durant la nuit, on prévoit quand même une chute des températures dans la nuit de vendredi à samedi, là, autour de 1 petit degré seulement. Et l'aperçu pour ce long week-end de l'Action de grâce, samedi, soleil 11, dimanche, soleil nuage 15, et pour lundi, soleil nuage autour de 13 degrés. Après les festivités, après l'euphorie, après la joie, le premier ministre François Legault doit maintenant passer à l'étape extrêmement compliquée de former son cabinet. Je dis extrêmement compliqué parce que 90 députés, moins de 30 postes de ministres à combler, ça laisse beaucoup de gens insatisfaits. Et plus on a de députés, plus la grogne peut s'installer. Et je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas toujours les plus compétents qui accèdent au poste de ministre parce qu'au-delà de la feuille de route, de l'expérience, il y a un paquet de considérations. Les états de service dans le parti, l'égalité homme-femme, la représentativité des régions. Alors, vous mettez tous ces ingrédients-là et vous dites qui je nomme à quel portefeuille. On sait déjà, parce qu'il l'a dit publiquement, que Christian Dubé confirma la santé. Il ne touchera pas à son équipe économique avec Fitzgibbon, avec le ministre Éric Girard. Je pense pas que Roberge va revenir à l'éducation. Et une des questions les plus chaudes, sans doute, qu'est-ce qu'il va faire avec Jean Boulay? Déjà, on sait qu'il n'est pas question qu'il revienne à l'immigration. Il est aussi titulaire du portefeuille du travail. Est-ce qu'il va le conserver? Certains pensent qu'il devrait le tasser, compte tenu de la gaffe et malgré les excuses. Donc, c'est de faire les choix judicieux tout en sachant qu'il y aura de l'insatisfaction. Est-ce que M. Legault va dégommer certains ministres? Donc, les retourner vers la banquette de députés. Il y a des noms qui circulent. On peut penser à Éric Kerr. Il y a beaucoup de gens ministrables, comme on dit dans la région de Québec. Est-ce que Nathalie Roy, qui n'a pas nécessairement été étincelante à la culture, va se faire tasser? Quand on dit tasser, c'est pas juste de passer à un autre ministère, là. Quel sera le rôle de Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique? On entend dire qu'elle ne veut plus s'occuper de la police. Alors, qui va s'occuper de la police? Ça fait beaucoup de questions. Et hier, M. Legault, puis même depuis le soir de l'élection, a développé la politique de la main tendue. En disant, je serai le premier ministre de tous les Québécois, tend la main aux Autochtones. Hier, il a dit, en parlant des autres partis, qui techniquement, n'auront pas tous les privilèges de partis d'opposition. On pense à Québec solidaire, on pense au Parti québécois, puis t'as Éric Duhaime dans le fond de la classe qui lève la main en disant « Moi aussi, j'aimerais mon bureau à l'Assemblée nationale, même si je suis pas élu pour le parti, et la permission de faire mes points de presse à la tribune. » Et M. Legault n'a pas écarté l'idée de reconnaître le PQ et Québec solidaire avec ce statut de parti d'opposition qui vient avec des ressources. Et on peut ajouter d'autres déclarations depuis la victoire. Ce matin, je lisais un papier dans De Gazette que je trouvais un bon résumé, là, qui est de dire « parfait pour le discours, mais quelles seront les actions? » Et là, on revient sur comment la campagne s'est déroulée, notamment les propos sur l'immigration. qu'on a associé à la violence. Puis après ça, les propos de Jean Boulay. Puis après ça, une immigration trop importante, c'est suicidaire. Beaucoup d'immigrants se sont, avec raison, sentis blessés. M. Legault a dû s'excuser, M. Boulay a dû s'excuser. Et là, de dire maintenant, je vous tends la main et je demande, par exemple, aux anglophones, aux allophones, de participer à cette bataille pour protéger adéquatement le français. Alors, entre le discours qui était, à répétition provocateur, qui a laissé des marques, est-ce qu'il y a un changement de ton une fois qu'on est réélu? C'est intéressant. Et pour le reste, bon, ben, il n'y aura pas de réforme de scrutin, là, du mode de scrutin. C'est clair. Je vous dirais que c'est un classique de voir un parti d'opposition réclamer une réforme pour avoir plus de sièges, plus de moyens. Puis quand ce parti, comme celui qui a repris le pouvoir lundi, la CAQ, il dit « Hey, hey, touchera pas à ça, on a 90 députés. On n'a aucun intérêt. » Alors, on en placote quand on est dans l'opposition, puis quand on prend le pouvoir. Puis je rappelle quand même que c'était un engagement du premier ministre qui avait une entente avec les partis d'opposition. Et là, la réponse, c'est que ça intéresse personne. Je suis pas si certain que ça. Quand 1,5 million de Québécois qui ont voté pour les conservateurs ont pas une forme de représentation, ça vient ajouter au cynisme, puis ça vient ajouter, disons, l'espèce de désintéressement. Parce que le taux de participation, qui est à peu près le même, un peu plus faible, là, c'est meilleur que l'Ontario, mais quand vous êtes à 65% seulement, 66% des gens qui sont allés voter, ça veut dire que le tiers des Québécois qui n'a pas jugé bon se rend dans un bureau de scrutin puis exprimer son choix. Et je trouve que ça en dit long et que ce désintéressement, c'est pas bénéfique. Donc, des gens qui se sentent pas représentés, et c'est vrai pour les conservateurs, c'est vrai pour le PQ, et toutes ces distorsions qu'on a vues, donc, la CAQ a beaucoup de députés par rapport aux voix, le Parti libéral, qui dans les faits, si on regarde les voix, arrive derrière Québec solidaire puis le Parti québécois, puis demeure l'opposition officielle en raison de la répartition géographique du vote. D'ailleurs, je vais conclure là-dessus. J'ai vu Mme Plante hier qui a demandé au premier ministre d'écouter Montréal. Puis j'ai vu plein de gens sur les réseaux sociaux, m'a fait rire un peu pour tout dire, là. Non, il n'y a pas de rupture avec le reste du Québec. C'est dans la tête des analystes. Je veux juste vous dire une chose. Est-ce que la CAQ a eu des votes à Montréal? Ben oui. Ils ont fait élire 2 députés. 2 députés de Montréal sur un caucus de 90 députés. Je répète, 2 députés de Montréal sur un caucus de 90 députés. Vous trouvez que le poids de Montréal est important? Je comprends qu'on va me dire, comme Bernard, hier disait Bernard Drainville, oui, mais le premier ministre vit à Montréal, M. Fitzgibbon, même s'il représente des comtés de la banlieue, puis ils sont sensibles. Peut-être. Mais c'est le Québec des régions qui est pesant au caucus. Et c'est pas Montréal. Alors, j'ai eu une couple de spineux, là, essayer de nous faire croire qu'il y avait rien là, là. Puis Mme Plante a dit, je serai pas l'opposition. Je comprends, là. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que l'opposition, sur des sujets importants, comme l'habitation, l'environnement, la criminalité, doit venir des élus comme Mme Plante, comme la mairesse de Longueuil, Mme Fournier, le maire de Laval, Bruno Marchand à Québec, parce que c'est un peu le contrepoids face à une opposition parlementaire qui est extrêmement divisée. Le dossier de Hockey Canada. D'abord, la presse nous apprend que Hockey Québec, hier soir, a décidé de se dissocier de Hockey Canada. Ils ont voté une résolution qui fait en sorte qu'ils expriment maintenant l'absence de confiance en la capacité d'Hockey Canada d'être efficace pour changer la culture du hockey avec les gens qui sont en place. On va essayer de résumer ça simplement ce matin. Hockey Canada chapeaute le hockey au pays. Hockey Canada, c'est une fédération omnipuissante, indépendante, qui domine et qui fait ce qu'il veut depuis toujours. Depuis 1989, il y a eu 22 cas d'agression sexuelle qui ont fait l'objet d'entente, donc de dédommagement. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'en payant vos cotisations pour vos enfants qui jouent au hockey, il y a une partie du montant qui va dans un fonds, qui est transféré après ça dans un autre fonds, qui n'a peut-être pas été utilisé, mais disons qu'ils ont quelques tiroirs à Hockey Canada où ils mettent de l'argent pour et ils disent que ça vient pas des contributions, mais tu découvres que ça vient un petit peu quand même des contributions, pour faire des ententes. Et Hockey Canada, depuis des mois maintenant, depuis que le Globe and Mail, depuis que TSN ont sorti des histoires sur la façon dont on a géré, parce qu'on avait des jeunes stars du hockey qui étaient impliqués dans une affaire d'agression sexuelle, qu'on n'a pas tout dit la vérité sur les enquêtes, que la police de London a décidé, après avoir fermé le dossier, de le rouvrir. Bref, Hockey Canada n'a qu'une stratégie, se protéger. On embauche une firme de com. On a des notes au conseil d'administration en disant qu'il faut changer le narratif, le propos, que ce sont des fausses nouvelles, que c'est de la désinformation, que nous sommes parfaits. Hier, devant le comité du patrimoine, on s'accorde des notes extraordinaires, A+. Nous avons des gens extrêmement compétents et on viendrait déstabiliser l'organisation s'il fallait mettre la hache là-dedans. La ministre Pascale Saint-Onge, qui sera avec nous tantôt, demande aux fédérations provinciales de faire le ménage, de mettre de la pression, puis d'en mettre sur les commanditaires aussi. Il y en a qui sortirent, il y en a qui reviennent. Vous avez donc l'État dans l'État, une méga-structure puissante qui ne se reconnaît aucun tort et qui n'a comme réponse à donner des pseudo-enquêtes, des sondages pour essayer de changer l'opinion publique. On est dans un mode d'un club fermé, avec un ancien président de CA, une nouvelle présidente par intérim, qui, devant le comité, donne des réponses évasives, quand c'est pas carrément un refus de répondre. Et là, vous vous dites, mais quelle est cette organisation à qui je verse des cotisations? Parce que j'ai pas le choix. Et ils font quoi avec le fric? Puis là, il y a supposément des enquêtes, puis c'est plus ou moins clair. Donc, la ministre sera avec nous tantôt pour parler de ça. Également, je profite de ce moment pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a 5 ans, était lancée cette vague partout dans le monde. La vague, moi aussi, le mouvement MeToo. Et c'était le 5 octobre où le New York Times publiait une enquête sur les agressions et le harcèlement sexuel que le producteur Harvey Weinstein faisait subir depuis des années et des années à de nombreuses femmes, essentiellement donc des actrices comme Ashley Judd. Le New Yorker publiait quelques jours plus tard, encore là, un long article, et c'est le fils de Mia Farrow qui a écrit ce reportage. L'actrice italienne Asia Argento qui disait avoir été violée par le producteur, et puis d'autres comme ça, puis par la suite on a eu au Québec toute l'affaire Gilbert Ozon, puis d'autres dénonciations. Donc ça fait 5 ans, puis un peu partout dans le monde, ces événements-là sont soulignés. Autre nouvelle ce matin, le fameux centre de tri du recyclage de Lachine. Il y a un nouvel opérateur, c'est la société VIA qui dans quelques jours doit reprendre la gestion du centre. Ils sont déjà impliqués. C'est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de voir à l'intégration dans le milieu de travail, dans la société, donc de gens qui sont handicapés. Et ils ont déjà, sous leur responsabilité, des centres de tri, il y en a 4, je pense, ailleurs au Québec. En gros, il y avait une compagnie, Ricova, qui fait l'objet de toutes sortes de reportages et d'allégations. Il y avait une enquête du bureau de l'inspectrice générale qui arrivait à des conclusions sur la façon dont il cachait certaines choses. Ricova a la mise en demeure facile. Et là, on a envoyé une mise en demeure pour contester le rapport du BIG. Il y a eu ce reportage sur des liens douteux avec certaines filières du crime. Ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été confirmé, il n'y a pas eu d'accusation. Bref, Ricova s'est fait tasser. Et entre autres, on a appris à ce moment-là qu'il y avait des ballots de papier, des ballots de trucs qu'on avait récupérés qui étaient complètement contaminés avec du plastique, puis que ça valait rien, puis que c'était comme ça pratiquement une passe directe pour le dépotoir. Donc, là, on vient de changer. Puis on nous explique que ça fait plus de personnel, ces travailleurs handicapés, puis ils vont prendre ça à la main pour enlever le plastique des ballots puis rendre ça vendable. On a hâte de voir ça. Sur le monde de la justice, maintenant, 2 ou 3 nouvelles. D'abord, ce matin, il y a Radio-Canada qui nous parle du SPVM qui talonne la mafia. Et là, ça fait partie des stratégies. Pascal Robida qui raconte ça, là, fait partie des stratégies pour mettre de la pression. Alors hier, ils sont allés dans un endroit, en fait, ils se sont organisés pour faire croire qu'il y avait un rendez-vous, supposément confidentiel, puis c'était quelqu'un qui était associé au clan des Rizzuto. Et tout ça, c'était pour lui passer un message, fouiller son auto. Il n'y a pas d'accusation, mais donc mettre de la pression dans le cadre de cette violence urbaine qui crée beaucoup d'anxiété chez les Montréalais. Fait que c'est un exemple, là, collaboration entre les SPVM et la police de Laval. Je vais vous dire aussi un mot sur hier le procès où l'ex-lieutenant détective Pietro Poletti du SPVM a témoigné. Ça s'est passé, son histoire. Un matin de juin, il était chez lui avec sa mère. Quatre individus sont entrés, ont défoncé la porte, l'ont tabassé et ont même brassé sa mère. Et lui, il a réussi à se défendre. Quatre personnes ont été arrêtées. Il y en a deux, sauf erreur, qui ont déjà été, qui ont plaidé coupables. Et il en reste deux. Et Pietro Poletti a témoigné en disant qu'il n'est pas capable de savoir qui est le commanditaire. Parce que on est sûr là, qu'il y a quelqu'un qui a payé pour qu'il se fasse casser la gueule. Et dans un des scénarios, c'est ce qu'il a dit hier en cours, il a entendu quelqu'un, un des quatre, là, dire « tue-le, on va le tuer ». Puis c'est lui, on l'a reconnu. Vous le savez peut-être, parce que je l'ai déjà dit, Pietro Poletti est un ami de longue date. Et ça l'a marqué. Ça a marqué sa mère, qui avait 87 ans à ce moment-là. Tu sais, se faire prendre par le bras par des bombes. Et je trouve ça hallucinant qu'on ne soit pas capable de savoir qui est derrière ça. Après toutes ces années d'enquête, là. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de déterminer le commanditaire? Est-ce qu'on le sait? Pas capable d'avoir la preuve? C'est pas vrai que t'as quatre clowns qui débarquent comme ça pour aller le tabasser avec une brique. C'est un voisin qui a pris la plaque d'immatriculation, puis c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Vous aurez d'autres détails dans la presse, matin. Mais sérieusement, là, puis je lui en parle d'ailleurs. Puis ça le forge, puis ça le frustre, puis je peux comprendre, là. Parce qu'il a travaillé toute sa vie pour combattre le crime organisé, la mafia, les motards. À une époque, il avait appelé un samedi parce qu'il avait reçu chez lui une gerbe de fleurs, couronne mortuaire, en fait. On sait ce que ça veut dire, là. Puis l'enquête avait permis de démontrer que c'était quelqu'un associé à la mafia. Puis la mafia s'était excusée. On ne fait pas ces affaires-là. Alors, qui est le commanditaire de l'agression dont il a subi des graves séquelles. Et puis un mot en terminant sur l'Ukraine, 224e jour de la guerre. Et là, les Russes eux-mêmes, c'est le ministère de la Défense qui confirme, carte militaire à l'appui, d'un recul de l'armée. Les autorités ukrainiennes confirment de leur côté des avancées. Donc, il y a un rapport de force qui est en train de changer. Et on voit que les Ukrainiens récupèrent des territoires qui, en principe, ont été annexés par Poutine officiellement depuis vendredi.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Une histoire assez incroyable de harcèlement. Un entraîneur de soccer qui était obsédé par une jeune fille de 15 ans. Et quand on dit Bénédicte obsédé, là, ça veut dire des textos, de l'intimidation, des bris de conditions. Il l'a pas lâché.
Il l'a pas lâché pendant pratiquement un an. L'homme s'appelle Morteza Javad. Il a 27 ans aujourd'hui. Et c'est vraiment l'enfer qu'il lui a fait vivre pendant près d'un an. Lui, il a plaidé coupable à des chefs de harcèlement, de bris de conditions, d'entrave et de vol. Et les faits qui ont été relatés hier en cours au Palais de justice de Longueuil, ça remonte à février 2021. C'est du moins ce qu'on dit dans l'acte de dénonciation. Javad, lui, il est entraîneur de soccer dans une école secondaire de la rive sud de Montréal. Il connaît l'adolescente parce que elle gravite aussi dans ce milieu-là du soccer. Elle a 15 ans à ce moment-là. Et pendant près d'un an, il la harcèle sans arrêt avec des messages sur différentes plateformes. De ce qu'on comprend, c'est qu'il semble amoureux d'elle. Il lui dévoile ses sentiments en disant qu'il va l'attendre jusqu'à sa majorité. Mais les messages sont pratiquement tous, ou presque, là, à sens unique. Et ils se multiplient pour atteindre quelques centaines de messages par jour. Et hier, en cours, ce qu'on a mentionné du côté de la couronne, on a donné comme exemple 600 quelques notifications qu'elle aurait reçues en 20 minutes.
En 20 minutes.
En 20 minutes. Sur Snapchat, Instagram, par la messagerie de l'école aussi, parce qu'il faut dire qu'il a accès à toutes ces informations avec son rôle de coach. Il est aussi surveillant pour les jeunes de soccer, donc il a son numéro de téléphone. Il a son adresse aussi. Et ça a été mentionné, il la suit, il l'espionne, il la traque. Il a avoué avoir surveillé sa résidence. On parle d'une véritable obsession, là. Il lui dit qu'à chaque nuit, il rêve à une relation magnifique. Il est jaloux de d'autres jeunes hommes à qui elle parle. Il menace de s'en prendre à eux. Il menace aussi de se suicider par sa faute. Il lui envoie des photos de couteaux. Il a vraiment investi toute sa vie. Il la contrôle. On parle de propos souvent agressifs, violents.
Là, il faut dire que ça se passe sur la rive sud. Il y a une école secondaire. Et on a fait le choix de ne pas l'identifier pour ne pas nuire à la jeune fille, là, pour respecter sa vie privée.
Ouais. Et il y a ordonnance de non-publication.
Il y a une ordonnance en plus. Donc, rien pour identifier la jeune fille. Là.
Non. Et l'affaire, c'est que la jeune fille, elle ne participe pas. Elle lui dit plusieurs fois qu'elle n'en peut plus, qu'elle est vraiment affectée, qu'elle a peur. Et lui, l'affaire, c'est qu'il a menace de dévoiler une relation qu'elle aurait eue avec un gars plus vieux qu'elle. Et elle, elle est terrorisée par ça. Et lui se sert de la vulnérabilité pour avoir de l'emprise sur elle. Donc, elle, elle cache ce qu'elle vit pendant tout ce temps-là. Elle vit ça tout seule. Et un des points culminants, c'est qu'il vole son cellulaire dans sa case. Il a accès, il les coach. Il remplace le cellulaire par un autre pour qu'elle continue à avoir des contacts avec lui. Et on a lu un extrait d'un mémo qui avait été écrit. « Arrête de me prendre pour un con. Tu veux jouer à ça? Si tu m'ignores, je prends ton téléphone. » Tu ne parleras à aucun fils de pute, je te laisse celui-là. Et là, il lui donne les instructions pour le nouveau cellulaire. Et ça a continué et à un moment donné, l'homme a écrit à l'ami et au père de l'adolescente pour leur dire qu'elle a embrassé un gars plus vieux. On dit « surveille-la » et c'est là qu'il a été arrêté finalement, le 10 février 2022.
Ça veut dire qu'elle a gardé ça vraiment pour elle pendant des mois et des mois avant de se décider à porter plainte.
Ouais, et ben, et en fait, c'est surtout parce que lui a communiqué avec le père. Mmh. Et c'est là que ça a amené à l'arrestation. Mais si seulement, Paul, ça se terminait là. L'affaire, c'est qu'il a été arrêté, libéré 14 jours plus tard. Et non seulement il recommence à la contacter, mais il essaie de la convaincre de retirer sa plainte. Donc là, il est arrêté de nouveau en mars et de la prison. Il l'appelle, ou en tout cas, il fait appeler quelqu'un, c'est pas très clair, mais bref, réussit à entrer en contact avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des accusations de bris de condition et d'entrave. Lui, il a témoigné hier en pleurs devant les membres de sa famille. Il dit qu'à ce moment-là, il était en dépression, qu'il a honte, qu'il regrette. Et l'adolescente, elle avait témoigné au mois d'août et on l'a mentionné en courrière à quel point ça avait été poignant, bouleversant. Elle expliquait comment sa vie s'est envolée, qu'elle a perdu le goût de vivre, perdu le goût de jouer au soccer, qui était sa grande passion. Et là, la couronne demande 30 mois de prison, moins la détention préventive qui est de 11 mois, avec une probation de 3 ans. Et du côté de la défense, on dit, ben, l'homme n'est pas guéri, c'est plutôt l'étape de la réhabilitation qui devrait être, qui s'impose à ce moment-ci. Il n'y a pas d'antécédent. Et on dit avec les 11 mois qu'il a purgé, ben, il devrait être libéré à ce jour avec une probation poursuivre une thérapie. C'est ce que la défense a dit.
Avec tout ce que tu viens de dire, on s'imagine la réaction de cette jeune fille qui a 16 ans aujourd'hui, là. En disant, il est sorti de prison. Même quand il était en prison, il n'a pas respecté ses conditions. Et là, c'est pas un peu obsédé, là, 600 messages en 20 minutes, là. La crainte qu'elle va vivre tout le temps, qui tente de rétablir un contact, de se présenter à l'école, même s'il a perdu ses emplois, là, reliés à l'école, à son poste d'entraîneur.
Là. Ouais, c'est ça. Là, il est demeuré détenu, mais il y a eu deux bris. C'est ça qu'on a mentionné. Il a quand même eu le temps de se reprendre. Et l'affaire, c'est que quand elle a témoigné, on l'a dit hier qu'il a eu une réaction très vive dès qu'elle a commencé à parler. Donc, est-ce que vraiment c'est terminé sa fixation, j'oserais dire, là, avec elle? Une chose est sûre, c'est que la juge Julie Maude Grève va prononcer la peine à la fin du mois d'octobre. Donc, à voir. Mais je te dirais que ça m'a bouleversée quand même d'entendre ça. Je me mettais à la place de la jeune de 15 ans. Là, traquée comme ça, c'est quand même quelqu'un qui est en position d'autorité.
En plus, ouais.
Et d'ailleurs, je vais juste prendre le temps de souligner que l'école et le mandataire sportif du programme de soccer l'ont suspendu dès qu'ils ont été informés de la situation. Ça, c'était en février 2021. Les parents aussi qui avaient été avisés, les parents, entre autres, du sport-études, mais aussi de toute la section.
Maintenant, on revient sur le double meurtre commis à Longueuil le 23 septembre dernier. Un homme et une femme qui ont été arrêtés.
Un homme de 19 ans et une femme de 22 ans, les deux de Montréal. Ils vont comparaître cet après-midi au palais de justice de Longueuil pour faire face à des accusations en lien avec ces homicides-là. On se rappelle que le 23 septembre, on avait été appelé du côté des policiers avec des coups de feu qui avaient été tirés dans un stationnement dans le secteur de la rue Lyon à Longueuil et les décès de Sophie Langelier, une femme de 42 ans, et Ahmed Kadar, un homme de 34 ans, avait été constaté sur place. Donc là, Sûreté du Québec et le service de police de l'agglomération de Longueuil qui ont travaillé ensemble sur cette enquête-là. On pense possiblement que ça pourrait être lié aux stupéfiants. Bref, je ne sais pas si on va en apprendre plus, mais comparution à la suite de ces deux arrestations qui est prévue cet après-midi.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On apprend ce matin dans la presse que Hockey Québec a décidé de prendre ses distances de Hockey Canada. Essentiellement, on cite une résolution qui a été adoptée hier soir où Hockey Québec dit ne plus avoir confiance en la capacité de Hockey Canada d'être efficace pour changer la culture du hockey avec la structure en place. On sait que Hockey Canada est au cœur d'une tourmente. Hier, les dirigeants et ex-dirigeants ont témoigné. L'ex-président du CA, Michael Brindamour, et la présidente par intérim, Mme Skinner, pour dire quoi? Essentiellement, nous sommes parfaits. Nous pensons que la haute direction fait un travail remarquable, qu'il y a de la désinformation, que les médias disent n'importe quoi, que nous sommes victimes d'attaques. Et tous les documents qui, depuis quelques mois, émergent dans Hockey Canada, laissent sous-entendre que la priorité est d'abord de se protéger plutôt que de changer la culture. La ministre fédérale des Sports est avec nous, Pascale Saint-Onge. Madame Saint-Onge, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je voudrais que ce soit très clair pour les auditeurs ce matin. Est-ce que Hockey Canada reçoit encore des fonds du gouvernement fédéral?
Non. Il y a déjà quelques mois là, que j'ai suspendu le financement de Hockey Canada qui provient du gouvernement fédéral. Et ça, comme on l'a vu, c'est entraîné que plusieurs commanditaires ont aussi retiré leur appui.
À votre connaissance, est-ce que Hockey Canada a encore des revenus? Est-ce que Hockey Canada a le budget pour fonctionner?
Ce qu'on a entendu depuis le début, puis ce qu'on sait là, de Hockey Canada, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent en banque. Et que jusqu'à tout récemment, je crois que les fédérations québécoises, pas juste québécoises, mais provinciales et territoriales, continuaient d'envoyer des frais d'enregistrement à Hockey Canada. Et ce qu'on voit ce matin, c'est qu'Hockey Québec a remis en question cet envoi d'argent-là.
Est-ce que le gouvernement fédéral a un pouvoir pour déloger, remplacer, congédier des dirigeants ou des membres du conseil d'administration d'Hockey Canada?
Non, toutes les fédérations sportives canadiennes sont indépendantes du gouvernement canadien. Le lien qui nous unit, c'est par des accords de contribution et ma sanction ultime, c'est de retenir le financement, ce que j'ai fait. Par contre, les fédérations sportives appartiennent à leurs membres et ça, c'est une très bonne chose parce que c'est eux, ultimement, qui envoient l'argent à ces fédérations sportives-là avec les frais d'enregistrement, comme c'est le cas pour Hockey Canada. Et donc, ce sont les membres qui ont le pouvoir de renverser les membres du conseil d'administration.
C'est ce que vous avez demandé plus tôt cette semaine. Vous l'avez passé une commande. Je suis pas capable de me débarrasser d'eux, mais vous avez le pouvoir. Faites le ménage.
Ben, c'est ça. C'est que si les fédérations sportives, les ligues juniors et tout ça sont convaincus qu'il faut changer la culture, ben il faut que ça commence entre autres avec le leadership du côté de Hockey Canada, parce que les histoires qu'on a entendues récemment, puis je le rappelle, c'est pas anodin, c'est des histoires de viols collectifs à répétition, et c'est très grave, et donc ça demande des changements profonds au sein de l'organisation.
On va résumer pour les gens qui ont plus ou moins suivi, là, pour que ça soit clair. Ce qu'on comprend, c'est que depuis 1989, il y a 22 victimes d'agressions sexuelles qui ont été dédommagées. On a appris l'existence d'un premier fonds. On a appris plus tôt cette semaine l'existence d'un deuxième fonds qui aurait pas servi à ça, mais qui aurait pu servir aussi à dédommager. On se demande quelles sont les règles internes? Est-ce qu'on a camouflé des choses? Il y a eu cette histoire de viol collectif. La police de London n'aurait pas enquêté. Finalement, rouvre l'enquête. Si vous aviez expliqué aux gens comment s'est comporté Hockey Canada dans ce dossier, et pas juste celui du viol collectif, mais sur les dossiers d'agression sexuelle depuis les dernières années, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce matin?
Ça a été géré comme un problème de risque, de gestion de risque et un problème d'assurance. Et non pas comme un problème de culture, de violence sexuelle et de changement et d'appui, d'encadrement à apporter aux joueurs qui sont membres des équipes nationales de Hockey Canada. Donc, c'est une incompréhension totale de la gravité de la situation.
Mais on a l'impression que les deux qui ont témoigné devant le comité du patrimoine ont, disons, pris les autorités de haut, là. en disant, je cite, que la haute direction est parfaite, on se donne des A, on n'a pas à être remplacé. Tout ça découle de fausses nouvelles, de désinformation. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est extrêmement choquant d'entendre ça et je pense d'abord et avant tout aux victimes, aux parents qui entendent des déclarations comme ça de banalisation de la gravité des événements qui ont été rapportés dans les médias, des allégations de viols collectifs à multiples reprises. C'est vraiment de faire preuve de déconnexion et de manque d'empathie totale envers, entre autres, les victimes.
Est-ce que vous croyez que Hockey Canada, en faisant un règlement avec la victime qui a dénoncé ce qu'elle a vécu, avait comme objectif d'étouffer l'affaire, de tuer le scandale ou d'éviter qu'une procédure soit trop pénible pour la victime?
Écoutez, la victime a tout à fait le droit de souhaiter un règlement hors cours, de souhaiter demeurer anonyme. La problématique, elle n'est pas là. La problématique, c'est que dans toute situation-là, année après année où il y a eu des événements comme celui-là, les joueurs et les personnes qui ont fait ces actions-là ou les actions alléguées n'ont jamais été tenus responsables de leurs actions.
Et aujourd'hui, on ne sait pas encore qui sont les joueurs impliqués.
Exactement. Puis pendant ce temps-là, ce qu'on sait, c'est que la plupart des joueurs qui font partie de ces éditions-là des équipes nationales jouent aujourd'hui dans la Ligue nationale, ont probablement de grands salaires, des très belles conditions de vie. Et c'est Hockey Canada, avec l'argent des parents, qui a dédommagé les victimes plutôt que les personnes qui ont fait ces actions-là. Alors, c'est à l'envers tout ça. C'est une très mauvaise gestion.
C'est une gestion, puis on l'a vu encore, là. Puis le Globe and Mail a travaillé fort sur la question, là. L'embauche d'une firme de communication, un sondage qui a été fait, puis un sondage, disons-le, biaisé, là, pour changer le narratif de l'histoire, pour dire aux Canadiens ce que vous entendez est faux, là. Nous, on a une culture parfaite, on peut faire quelques changements, mais on a à l'intérieur de notre club sélect et fermé tout ce qu'il faut pour continuer.
Je pense qu'ils ont fait la démonstration depuis les dernières décennies que c'est pas le cas. Et malheureusement, les dirigeants pensent que leur problème, c'est un problème de communication et de relations publiques. Or, c'est un problème profond de violence, de manque d'encadrement, de manque de prévention. Et c'est un échec total des dirigeants envers les joueurs et envers les membres du public.
À votre connaissance, est-ce qu'ils ont mis en place un certain nombre de mesures, enquêtes indépendantes? J'ai vu passer, appelons ça, comme une espèce de un énoncé de valeurs et de principes, là. Mais est-ce que depuis le début de la crise sur le viol collectif à London, on se retrouve avec des changements ou si on est à l'étape des produits cosmétiques, là, un petit maquillage puis on passe à un autre appel?
Ce que j'entends des gens qui m'abordent, qui sont impliqués dans le monde du hockey, s'il y a des changements, ça découle certainement pas à tous les niveaux là, du côté du hockey. Malheureusement, les gens ne voient pas sur le terrain. C'est ce que j'entends. Là. Puis moi, je suis pas impliquée directement dans le monde du hockey. C'est les parents qui m'abordent. C'est les gens des ligues juniors là, qui me disent qu'ils voient pas concrètement les résultats de ce fameux plan d'action.
Hockey Canada, Mme Saint-Onge, c'est comme l'État dans l'État. Là. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de tout le monde. C'est un club sélect, fermé, avec un énorme contrôle.
C'est une organisation qui a beaucoup de moyens, qui a bénéficié du fait que le hockey, c'est un sport qui est très populaire au Canada, que les gens aiment. C'est un très beau sport. Moi, personnellement, je suis une fan de hockey. Et ils ont bénéficié de ce statut-là pendant très longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2022, les gens n'acceptent plus ce type de gestion et les violences sexuelles qu'on voit aujourd'hui, c'est dénoncé dans la société. Et il est temps que les efforts soient mis pour changer la culture puis enrayer ce phénomène de violence sexuelle. On s'attendait à ce qu'avec les histoires, par exemple, de Sheldon Kennedy, les autres rapports qu'on a attendus au fil du temps, que Hockey Canada tienne ses promesses qu'ils ont formulées à plusieurs reprises de travailler sur la culture des violences sexuelles. Puis on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'a pas été fait. Ça a été des belles paroles, des vœux pieux, mais qu'il n'y a rien qui a changé sur le terrain et ça doit se faire absolument On est rendu là. On n'aura pas une autre chance, à mon avis, comme celle qu'on a présentement, de faire les changements qu'il faut dans le monde du hockey. Alors, il faut que tout le monde s'y attaque à tous les niveaux.
Quelle est la prochaine étape pour vous? Vous avez lancé un appel, aux fédérations provinciales, comme Hockey Québec. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez l'intention de faire ou si vous vraiment vous mettez ça entre les mains des organisations provinciales?
Ben, au niveau du changement au conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui a ensuite les pouvoirs de changer les hauts dirigeants, les directeurs de l'organisation. Donc ça appartient vraiment au niveau des membres. En ce qui me concerne, les sanctions sont maintenues jusqu'à ce que des conditions très importantes soient remplies par Hockey Canada pour éventuellement retrouver le financement fédéral. Mais on n'est pas rendu là, on est encore très loin. Une des conditions qui est super importante, c'est l'adhésion au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Puis je prends le temps de l'expliquer parce que c'est un changement majeur dans le monde du sport d'avoir cet organisme-là qui a les pouvoirs de faire des enquêtes indépendantes sur la culture du sport dans n'importe quelle organisation qui signe avec eux. Et c'est donc une obligation que Hockey Canada doit faire de signer avec le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport qui a les pouvoirs par la suite là, de faire une enquête sur la culture dans le monde du hockey.
Mais est-ce que Hockey Canada a signé l'entente? Est-ce que l'enquête est commencée?
La signature n'est pas encore faite, mais je sais qu'il y a des discussions et des négociations. Ça devrait se faire incessamment et c'est très important que ça soit fait dans les plus brefs délais.
Hockey Québec a suspendu les cotisations, donc retient les cotisations, l'argent qui normalement devrait être envoyé à Hockey Canada. Vous retenez les fonds de votre côté, mais ce que je comprends, c'est que Hockey Canada peut vivre assez longtemps, même si l'argent du fédéral n'entre pas là.
Oui, parce qu'ils ont beaucoup d'argent en banque et c'est pour ça que je m'attends à ce qu'entre autres, l'équipe paralympique, l'équipe féminine continue de recevoir sa part de financement du côté de Hockey Canada. Là, c'est très important que leurs activités ne soient pas pénalisées par les sanctions qui sont imposées présentement du côté de Hockey Canada.
Merci, Mme Saint-Onge. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir. Pascal Saint-Onge est ministre fédéral des Sports. Et je rappelle donc Hockey Québec, sauf erreur, est la première fédération à adopter cette résolution en disant « faites le ménage et tant que c'est pas fait, ben nous, on retient les cotisations ». Les cotisations, ce sont les montants payés par les parents quand leur enfant joue au hockey. Et c'est un montant, puis Alain l'a déjà expliqué, qui est décortiqué de différentes façons, question d'assurance, mais là on apprend qu'un fonds existe, puis qu'il y a un autre tiroir. Là. Je prends cet exemple-là parce que on ne dit pas que l'argent est transféré, mais on ne sait pas exactement comment c'est dépensé. Il y a, appelons ça, beaucoup de fumée autour d'Hockey Canada. Et le discours, c'est vraiment, là, on se protège et on tente de changer la perception. Tout ça, c'est une attaque inadmissible contre Hockey Canada. C'est du cynisme. Et pour reprendre l'expression de Donald Trump, ce sont des fake news véhiculées contre nous qui nous occupons de faire jouer vos jeunes au hockey.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, on parlait tantôt avec la ministre Pascale Saint-Onge, qui est responsable du dossier de Hockey Canada, et plus tôt cette semaine, elle avait demandé aux fédérations dans toutes les provinces d'adopter des résolutions pour se dissocier, se démarquer, couper les liens jusqu'à un certain point.
Parce qu'elle, elle peut pas rien faire.
Elle, elle a aucun pouvoir, puis elle dit, dans le fond, ceux et celles qui ont des pouvoirs, ce sont les dirigeants, dirigeantes des fédérations. Puis on a appris que hier soir, le CA de Hockey Québec a adopté une résolution. Puis ça se dit, en fait, les choses sont claires. Nous n'avons plus confiance dans Hockey Canada.
Et là, ça survient au moment où il va falloir renouveler 9 places au sein du... Je pense que c'est 9 places au sein du conseil d'administration. Et les différentes fédérations provinciales ont droit de vote, ont droit de chapitre dans ce renouvellement des membres du conseil d'administration.
Claude Fortin est le président du conseil d'administration d'Hockey Québec. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Bonjour, M. Craig.
Bonjour.
D'abord, nous dire essentiellement le contenu de cette résolution qui a été adoptée hier soir.
Ben, suite aux énoncés, puis avec ce qu'on a entendu à la commission parlementaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a senti le besoin de faire sentir Hockey Canada que présentement le mécanisme qu'ils mettent en place ne satisfait pas Hockey Québec dans la démarche vraiment de faire la mise en place du plan d'action qu'ils veulent faire. C'est que nous, on a pris une résolution dans ce sens-là, puis la résolution aujourd'hui, bien, il va sortir un énoncé qu'on va distribuer et qui va faire part que nous autres, on a une grande attente avec le rapport du juge Caldwell. Et aussi, ben, après, suite à ça, ben, il va y avoir notre stratégie qu'on va prendre pour les élections.
Juste comprendre, ça veut dire que, dans le fond, vous ne leur faites pas confiance pour réformer Hockey Canada. Je parle du conseil d'administration et des dirigeants.
Ben, c'est en plein ça.
OK. Dans les faits, ça signifie quoi pour les relations entre Hockey Canada et Hockey Québec?
Ben moi, M. Cray, je tiens à vous dire, moi, je suis élu par les gens de Hockey Québec, par le conseil d'administration. Je suis élu par mes 14 branches. Et le mandat que j'ai de ma CPR, ma commission permanente des régions, est vraiment de dire, là, de faire la lumière puis de voir à ce que nos argents soient de bien utilisés et qu'ils soient bien gérés, entre autres.
Mais l'argent des cotisations que vous devez remettre à Hockey Canada, c'est dans un compte en fiducie. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Ben nous, habituellement, Hockey Canada nous envoie une facture au début du mois de novembre. On doit payer au mois de décembre. La situation, ce qu'on a analysé, nous autres aussi, de notre bord, c'est vraiment de s'assurer que nos jeunes sont couverts par les assurances et qu'il y a une protection. On se doit de se centrer aussi sur la préoccupation de protéger nos joueurs. C'est que par la suite, nous, on a émis une série de questions à laquelle on a dit qu'on attend des réponses. Puis à partir du moment où nous aurons nos réponses et nous serons satisfaits, ben, on va transférer les argents.
OK, mais donc, vous gardez les argents, les montants, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas les réponses aux questions que vous posez.
C'est en plein ça.
Là, ce matin, sur les réseaux sociaux, un peu partout au Canada, la nouvelle est reprise, là, puis on souligne le fait que vous êtes les premiers à le faire. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les autres fédérations provinciales? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres provinces qui vont emboîter le pas?
Pour le moment, on n'a pas de contact, on n'a pas eu d'informations. Jeudi, on a une réunion, en principe, avec Hockey Canada, jeudi, puis après ça, on a une autre mardi prochain, puis la semaine prochaine, on a une rencontre à Mississauga, là, en présentiel. Les deux autres sont en Zoom. Et à partir de ce moment-là, on va voir la lumière, on va voir comment que les autres branches vont réagir.
Bon, là, la ministre, hier, s'en est remise aux fédérations provinciales pour qu'il y ait des changements au sein d'Hockey Canada. Il y a 9 sièges à renouveler au sein du conseil d'administration d'Hockey Canada. Est-ce que les fédérations provinciales sont les seules à voter ou est-ce qu'elles ont une majorité de votes pour permettre des changements?
C'est les branches qui votent à l'Assemblée générale. Même les membres du conseil d'administration à Hockey Canada n'ont pas le droit de vote.
OK, mais ce que je veux savoir, dans le fond, là, très clairement, est-ce que les provinces ont le pouvoir de congédier les membres du conseil d'administration ou les remplacer, là, peut-être, puis ultimement mettre des gens avec qui vous allez mieux vous entendre pour faire un vrai ménage dans la direction d'Hockey Canada?
Effectivement, dans votre question, c'est oui. C'est les branches qui peuvent élire neuf nouvelles personnes, dont deux sièges. Il y a déjà deux membres qui sont à échéance sur leur durée de mandat. Là. Ils ont le droit à 4 mandats de 2 ans. Il y en a déjà 2. C'est sûr qu'il y a 2 vacances. Puis par la suite, ben là, les ouvertures de candidature sont ouvertes. Présentement, le comité de Hockey Canada a commencé à lancer les invitations.
Donc, les fédérations peuvent, sur un échéancier relativement court, faire tous les changements?
Oui.
OK.
OK, donc les changements sont entre vos mains, là.
On est une partie.
Oui, c'est
on
le Québec.
Des mais... Branches parce que
non,
nous,
mais je veux dire, vos mains votes. Des fédérations provinciales, là, pas la fédération.
Oui, okay. Effectivement. Nous, on a 5 votes, l'Ontario a 5 votes, puis par ça, l'Ouest, BC, BC Alberta ont 3 votes, puis les autres ont 2 votes.
OK, merci, M. Fortin. Bonne journée. Claude Fortin est le président du conseil d'administration d'Hockey Québec. Là, on va voir si les autres provinces vont aller dans ce sens-là. Là.
Je vais revenir sur... Je te parlais de la biographie de Jordan Tutu.
Oui.
Ça, c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale, faisait partie de l'équipe Canada Junior qui a participé au championnat du monde en 2003 dans les Maritimes. Il y a une enquête sur un cas qui serait survenu à cette époque-là. Il y a un passage du... D'abord, le livre est passé un peu inaperçu, sauf que, bon, Tutu est issu des Premières Nations et des problèmes de consommation, puis finalement, amorcé un processus de guérison, puis là, il a écrit sa biographie. Il y a un passage, il y a à peu près 5-6 lignes dans le livre, là, ça refait surface parce que à la suite de l'enquête, tu lis ça, puis c'est écrit textuellement dans son livre là,
que
je te dis ça, là j'ai utilisé la traduction française, nous n'étions que des gamins dans le temps. Nous étions de jeunes hommes allumés sexuellement. Nous étions à Halifax et chaque fille sur place nous faisait de l'œil. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu vas en profiter. Et c'était pas juste de l'action d'une personne avec une autre. Quelques-uns des gars ramenaient des filles après les entraînements et allaient dans une chambre. J'en ai assez dit.
Donc, c'était pas, comme on dit, deux partenaires consentants.
Non, c'était pas un gars, une fille, là.
Non, il y était plusieurs.
C'est ça. C'est ce que ça laisse entendre. Et là, le passage refait surface avec ce que l'on sait maintenant. Mais c'est assez... Tu sais, s'il n'y avait pas eu le scandale d'Hockey Canada, on n'aurait jamais parlé de ça parce que personne n'a relevé ce passage là, de 5-6 lignes quand il a lancé sa biographie. Et je termine là-dessus en disant que la Ligue nationale a fait savoir par l'entremise de Bill Daly que l'enquête sur ces événements-là était presque complétée. Les joueurs ont été rencontrés, ont pleinement collaboré à l'enquête. Il reste encore quelques témoins à voir. Et Bill Daly a dit que la Ligue peut prendre des sanctions envers les joueurs si jamais on en arrive là, parce qu'il y a des articles de la Convention collective qui disent que la Ligue peut intervenir pour sanctionner des comportements sur et à l'extérieur de la patinoire qui peuvent nuire à l'image du hockey et plus spécifiquement de la Ligue nationale de hockey.
Très bien. Et le Canadien a perdu encore une fois. Alors, pas de surprise, pas de déception.
Sixième défaite, 5-4. Mais là, Martin Saint-Louis allait s'entendre qu'il voulait avoir son équipe A pour les deux matchs en fin de semaine contre Ottawa dans les Maritimes. Là. Ça veut dire qu'il va probablement y avoir d'autres coupures au cours des prochains jours. Mais écoute, là, honnêtement, lui semble pas attacher beaucoup d'importance aux résultats des matchs au camp d'entraînement, mais je suis convaincu que peut-être une victoire, ça fera du bien un peu. Là.
Merci, monsieur.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Merci beaucoup. Vous dire également, pour ce qui est des lendemains d'élection, on va en discuter avec nos commissaires tantôt, mais essentiellement, ce qu'on retient ce matin, c'est que d'abord, M. Legault a été, disons, assez clair. Il n'y aura pas de réforme de mode de scrutin. Il n'y aura pas une discussion même sur la notion de proportionnel, malgré le fait qu'il y a beaucoup de distorsions depuis lundi soir. C'est pas la première fois remarqué, mais avec quatre partis d'opposition, c'est peut-être encore plus clair. Des partis qui, en termes de vote populaire, sont allés chercher 400, 500, 600 000 voix et qui sont à peu près pas représentés. C'est le cas des conservateurs d'Éric Duhem. Aucun député, plus de 500 000 voix. Québec solidaire, plus de 600 000. Le Parti québécois également. Et d'ailleurs, quand vous regardez les voix, le Parti libéral, qui est maintenant l'opposition officielle, arrive après le Parti québécois et après Québec solidaire. Donc, ça veut dire que il n'y a pas une représentation. Alors, il n'y aura pas de réforme du mode de scrutin. Ça, c'est un. Deuxième élément, le Conseil des ministres sera formé d'ici deux semaines. Et avec tous les enjeux que ça représente de parité, de représentation régionale. Et la politique de la main tendue de M. Legault aux Autochtones, aux immigrants, pour essayer de calmer le jeu après des déclarations explosives durant la campagne, c'est reçu avec une certaine tiédeur, en disant lequel des deux est le vrai, là. Les attaques ou les dérapages durant la campagne, ou la personne qui a l'air plus sereine au lendemain de l'élection, puis qui parle d'un moment, disons, de réconciliation, de main tendue avec les forces d'opposition. Le 5 octobre 2017, le New York Times publie une enquête concernant les agressions et le harcèlement sexuel que le producteur de cinéma Harvey Weinstein a fait subir pendant des années et des années à de nombreuses femmes, principalement des actrices. On se souvient entre autres de l'actrice Ashley Judd. Il a été condamné en 2020 à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol. Donc, ça fait 5 ans aujourd'hui que démarrait en quelque sorte le mouvement MeToo, moi aussi. Dans les faits, c'est né en 2006 une travailleuse sociale qui avait fondé ce mouvement-là pour dénoncer les abus sexuels sur des petites filles noires dans la communauté. Mais c'est vraiment avec l'affaire Weinstein que tout ça a démarré avec un impact partout dans le monde. Ça a été rapide dans les jours qui ont suivi. Et même ici au Québec, on se souvient entre autres de l'affaire Gilbert Ozon. J'en parle avec Maître Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop. Maître Gagnon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là, même s'il y avait dans le passé des dénonciations, que la vague a démarré et ça a permis à des femmes de lever la main puis de dire « moi aussi, j'ai vécu ça, là ».
Oui, la vague « moi aussi » de 2017, c'est définitivement la plus puissante qu'on a connue à ce jour. Vous le mentionnez, ça a commencé aux États-Unis, mais ça a déferlé pas mal partout sur la planète. Il y a eu des variantes dans toutes les cultures, avec des conséquences dans plusieurs sociétés. Puis au Québec, on en a fait partie. Puis la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, à ce jour, vous et moi en parlons. Puis chez Juripop, ça continue de nous occuper quotidiennement, là, la question des agressions sexuelles.
Bon, je parlais tantôt avec la ministre responsable du dossier de Hockey Canada, qui est un autre exemple dans le contexte. Dans les faits, depuis 5 ans, comment la gestion des plaintes d'harcèlement sexuel ou d'inconduite sexuelle ça a évolué? Comment les milieux de travail ont changé, vous pensez?
Bon, alors chez Juripop, on travaille beaucoup sur le terrain, là. Puis, en fait, on travaille assez étroitement avec tout le milieu de la culture qui, malheureusement, à chacune des vagues, est vraiment frappée de plein fouet, le plus que les autres secteurs d'activité par les dénonciations. Puis, je vous dirais que ce qu'on constate depuis 5 ans, en fait, en 2017, là, les organisations étaient un peu comme des chevreuils sur l'autoroute, là, à savoir que là, il y a les plaintes qui arrivaient, puis on savait pas trop quoi faire avec ça, c'était des patates chaudes. Aujourd'hui, cette réaction-là, on ne la voit plus. Les organisations sont excessivement sensibilisées quant à l'importance des dénonciations d'harcèlement sexuel. On a des politiques en place, puis pas juste des politiques comme des feuilles de papier, là. Les gens sont formés, ils savent quoi faire quand ils reçoivent des dénonciations. Les personnes qui font les plaintes sont accompagnées. Donc, je vous dirais que la prise en charge des plaintes s'est vraiment, vraiment améliorée sur le terrain, là. Puis ça, c'est sûr que c'est au bénéfice des personnes qui dénoncent.
OK. Parlez-moi de l'aparté, là, qui est né justement à la suite de ce mouvement-là.
Oui, ben ça, c'était toute une histoire, là. Donc, 2017, mois d'octobre, quand la vague déferle au Québec, ben vous le savez, vous y avez contribué, c'était à travers les dénonciations concernant Gilbert Ozon et Éric Salvaille, donc le milieu de la culture. Donc, très rapidement, l'industrie culturelle, le milieu s'est mobilisé, puis ils se sont dit, bon, ben il y a vraiment quelque chose à faire pour éradiquer, là, la culture de harcèlement qui affecte le milieu. Donc, il y a une quarantaine d'associations, d'organisations qui ont été fédérées, entre autres, par l'Union des artistes, qui sont mis ensemble, qui ont rapidement adopté une déclaration pour affirmer haut et fort que le harcèlement avait pas sa place dans l'industrie. Puis ensuite, sont allés faire des démarches auprès du gouvernement du Québec, qui a répondu présent, pour obtenir du financement pour vraiment agir en amont, en prévention. Fait qu'il y a des formations qui ont été mises en place. Puis nous, chez Juripop, on s'est vu confier le mandat de mettre en place un guichet unique où les personnes qui sont témoins ou victimes de harcèlement peuvent venir cogner à notre porte puis obtenir des conseils juridiques, de l'accompagnement juridique en matière de harcèlement au travail dans le milieu de la culture. Donc, on a lancé la partie en 2018. Et puis, à ce jour, on a accompagné des centaines de travailleurs, de travailleuses dans le milieu de la culture qui ont vécu du harcèlement ou qui pensent en avoir vécu. Fait que notre rôle, c'est de les accueillir, de les écouter. Puis on est des avocats, des avocates. Fait que nous, ce qu'on est bon à faire, c'est de dire oui, ce que vous avez vécu, ben c'est illégal, là, ça respecte pas la loi ou ça respecte pas la politique de l'employeur. On les accompagne à porter plainte. Puis on a eu des beaux succès, là, dans les dernières années.
Maître Gagnon, il y a eu comme 3 façons pour les victimes de s'exprimer, je dirais. Il y a eu évidemment la plainte, de dire c'est pas vrai, puis avec les conseils que vous leur donnez, je vais voir la police, puis ultimement, il y a peut-être des accusations. Il y a eu également le biais d'enquête journalistique, où des femmes voulaient pas nécessairement aller devant la justice, mais tenaient à ce que ça soit connu, des visages découverts, des gens dans l'anonymat. Puis il y a eu aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Avez-vous l'impression que parfois ça a dérapé, que ça a peut-être amené des gens à se faire salir, alors qu'il n'y avait pas nécessairement de la matière pour appuyer ça?
C'est une question délicate parce que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas plus de fausses accusations, de fausses dénonciations en matière d'agression sexuelle que pour les autres types de crimes. Fait qu'on n'a pas plus tendance à mentir quand on dit qu'on s'est fait agresser ou quand on dit qu'on s'est fait frapper ou voler. Par contre, vous avez raison qu'il y a vraiment eu une vague de dénonciations massives sur les réseaux sociaux à l'été 2020. Puis que cette vague-là était marquée par une absence de garantie, si vous voulez, pour la personne qui était visée par les dénonciations. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'on identifiait seulement l'agresseur allégué par son nom, sans donner de détails sur ce qui était reproché. Fait que c'est certain que la personne qui était visée par ces dénonciations-là, il y en a là qui savaient pas du tout ce qui leur était reproché ou sinon qui étaient en désaccord avec ça, puis il y avait pas de moyen de se défendre, contrairement à quand c'est un journaliste qui enquête ou évidemment quand c'est un juge. Fait que c'est sûr qu'il y a eu, c'est pas une manière idéale là, de mettre fin aux agressions sexuelles dans une société. Puis moi, en tant qu'avocate, puis en fait, les mouvements féministes depuis les années 80 ont vraiment travaillé très fort pour que l'agression sexuelle soit reconnue comme un crime violent. Et que ce soit sanctionné par les tribunaux et que ça puisse mener à une peine de prison. Donc, tu sais, je pense pas que les gens pensent que c'est via les réseaux sociaux qu'on va mettre fin à ça. Par contre, si les victimes se sont tournées vers les réseaux sociaux, ben c'est clairement parce qu'il y a quelque chose qui doit être amélioré avec le système de justice.
Mais ça, c'est un peu ça ma question aussi, parce que beaucoup de femmes disent encore aujourd'hui, on a plus ou moins confiance. Ça veut dire que, puis là je vais prendre l'exemple classique, là, je vais faire une déposition à la police, quand on va être rendu en cours, on va me challenger sur le moindre détail, si j'ai dit que le mur était bleu, puis que je répète en cours que le mur était foncé, l'avocat va se mettre après moi. Donc il y a encore, est-ce que c'est encore une pratique ou c'est un mythe qui remonte dans le passé?
Ah, bon, donc là, vous savez, là, ce qui a changé depuis 5 ans, entre autres au Québec, c'est que en ce moment, il y a des projets pilotes un peu partout dans la province pour mettre en place un tribunal spécialisé. Et le tribunal spécialisé, ça donne suite au rapport Rebâtir la confiance. Ça va définitivement améliorer l'accompagnement qui est fourni aux personnes victimes et survivantes à travers tout le système de justice. Fait que c'est sûr que ça va améliorer le passage, que ça va renforcer la confiance. On va sûrement avoir plus de dénonciations. Par contre, ce que vous venez de mentionner, à savoir les règles du contre-interrogatoire, ça, c'est pas changé par un tribunal spécialisé. Il va avoir des formations pour tous les intervenants, incluant les juges, les procureurs de la couronne, les avocats de la défense. Jury Pop, on offre de la formation. Donc, il va avoir plus de sensibilisation à la réalité de l'agression sexuelle puis des traumatismes qui en découlent. Mais des contre-interrogatoires pour tester la crédibilité de la victime, pour tenter d'ébranler la fiabilité de son témoignage, pour tenter de la contredire, ben ça, c'est certain que ça va continuer à rester. Puis les garanties constitutionnelles de l'accusé, la présomption d'innocence, le droit au silence, le droit à l'avocat, ça, ça reste dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ça va continuer d'exister.
Mais la raison pour laquelle je pose la question, c'est l'accompagnement quand on va rencontrer les enquêteurs. Ce que je veux dire, c'est, moi, je suis parfaitement d'accord là, que les règles de droit soient là puis qu'on puisse mesurer la crédibilité. Mais souvent, moi, j'ai des victimes qui m'ont raconté, elles sont pas conscientes de ça. Autrement dit, elles sont pas accompagnées quand elles vont rencontrer les enquêteurs, puis elles réalisent après que l'approche aurait été probablement différente.
Bon, ben vous mettez le doigt sur quelque chose de super important. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que c'est précisément ce que vous décrivez, à savoir ces règles-là, le contre-interrogatoire, l'importance de la dénonciation qu'on fait à la police au départ. Le problème avec ces règles-là, c'est quand les personnes victimes les comprennent mal ou quand ces règles-là leur sont expliquées trop tard dans le processus. Fait que c'est pour ça que dans les tribunaux spécialisés, une des recommandations qui est clé, à mon avis, c'est que toute personne qui se présente à un poste de police ou qui appelle là pour faire une dénonciation, qu'immédiatement elle soit mise en contact avec une intervenante. Puis le rôle de cette intervenante-là, c'est entre autres d'expliquer à la personne c'est quoi les prochaines étapes. Tu veux porter plainte à la police, voici comment ça va se dérouler, voici à quoi ça va servir ta dénonciation, pour que la personne victime puisse se préparer puis s'assurer que la plainte à la police, ça correspond vraiment à ses besoins. Puis nous, c'est un peu ça le travail qu'on fait chez Jury Pop. Là, on explique, voici comment le système de justice fonctionne, puis aussi, voici c'est quoi les alternatives. Oui, on peut porter plainte à la police, mais on peut aussi, par exemple, porter plainte à l'employeur, à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Puis des fois, après avoir expliqué les règles, de chacun des systèmes, ben les gens attendent pour porter plainte ou sinon, ben ils vont voir leur psy ou démarrent un processus d'accompagnement avant de porter plainte. Fait que vous avez tout à fait raison que d'avoir des intervenants en amont du processus, ça va avoir un impact, c'est sûr.
Merci beaucoup, Maître Gagnon. Bonne journée.
Merci à
vous. Au revoir. Maître Sophie Gagnon est la directrice générale de Juripop.
C'est 23.